les choux. À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon, on entend le mot de et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, sur Radio Galère 88.4. Et jamais 203, bienvenue sur Dicotylédonde. Aujourd'hui, on vous propose une conversation autour de la table du salon. C'est là qu'en février, nous avons rencontré Élie et Oran, qui étaient à Marseille en résidence pour un projet qui s'appelle Se planter et dont on avait très envie de parler. C'était un beau moment, l'occasion de discuter ensemble d'ethnobotanique déviante, des plantes qui peuvent accompagner les transitions de genre, des termes qu'il reste à inventer pour parler autrement de la sexualité du monde végétal et de la nécessité de fabriquer de nouveaux imaginaires pour se relier au vivant.
On parle donc ensemble de ce qui pousse à la lisière du non-binaire, de l'évolution des représentations des plantes à fleurs et de leur reproduction, de la place domestique et décorative assignée aux femmes aussi dans le monde botanique et de la transmission des savoirs et des usages liés à nos guérisons ou pas. Il y a aussi dans cette émission plein de références et de conseils de lecture que vous pouvez retrouver sur la page de Dicotylédonde sur radiogalère.org. N'oubliez pas que l'émission est ouverte à toutes les propositions et que vous pouvez nous écrire à dicoty@ethic.com, dicoty@ethic.com. Bah pour commencer, vous voulez bien vous présenter, nous raconter un peu votre passage à Marseille, ce que vous êtes venu faire et...
Moi, c'est Élie. Et du coup...
Moi, c'est Oran.
On est venu à Marseille dans le cadre de la rédaction d'un fanzine. On a un projet ensemble avec Oran, donc on est tous les deux herbalistes, on peut dire ça. On coécrit un fanzine qui s'appelle « Se planter », où on recueille des témoignages de personnes qui prennent de la testostérone. Donc dans le premier, on va faire un fanzine avec un peu deux parties. La première partie, donc, c'est vraiment juste la restitution de ces témoignages à l'écrit. Et la seconde partie, c'est plutôt d'écrire des usages de plantes qui sont utilisables dans les transitions de genre.
L'origine du projet, elle vient d'où? Comment vous en êtes arrivé à travailler sur ces questions de... plantes et genre
Je pense qu'on... déjà, il y a le fait d'être deux herboristes queer et trans. Du coup, je pense qu'il y a un peu ce mélange de... Je pense qu'il y a deux arrivées différentes aussi moi, du coup, dans l'herboristerie, je travaille beaucoup avec la santé. Et puis, je pense qu'on, pour le coup, on a un vécu commun de s'intéresser aussi à la santé féministe, à la réappropriation de la santé, toute une histoire d'herboristerie utilisée de manière gynéco, etc. Et un peu ce côté qui se retrouve avec les personnes trans. En fait, en règle générale, les personnes, comment différents groupes minorisés sont un peu oubliés par la médecine conventionnelle et comment l'herboristerie a toujours eu un peu ce rôle militant dans ce sens-là, et qu'en fait, il commence à y avoir des informations sur... Enfin, il y a une longue histoire de d'herboristerie gynéco par rapport à ça, et que et qu'en fait ça fait sens qu'il y en ait une pour les personnes trans aussi, mais qu'elle n'est pas encore très présente. Enfin, c'est un sujet encore assez nouveau. Du coup, je pense qu'il y a ça, et puis un intérêt personnel de bah, je suis herboriste, je suis trans. En fait, qu'est-ce que la prise de testostérone me ferait? Comment j'essaye de le comprendre et comment j'essaye de me réapproprier ça, et comment je peux utiliser les plantes qui sont en soutien tout le temps dans ma vie pour me soutenir par rapport à ça. Du coup, il y a un truc très, très personnel et très... enfin, égoïste, mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire, mais de... Ouais, de en fait, ça m'intéresse moi, et il y a plein d'autres gens de ma commu que ça intéresse. Enfin, voilà.
Oui, complètement. moi, c'est aussi vraiment... Enfin, des pratiques de recherche, hein, en tout cas... Oran disait la gynécologie, enfin pour moi c'est un truc qui est hyper important, la santé communautaire, et j'ai précédemment fait un peu ce travail là aussi avec les plantes gynéco dans un collectif qui s'appelle Rosa et Canine, où du coup on a écrit plusieurs fanzines et où on faisait beaucoup d'ateliers de partage de savoir autour des usages gynéco et hormonaux des plantes. Et ouais, moi aussi, ce qui me vient dans ce que t'as dit, c'est que il y a aussi très peu de témoignages de personnes trans et aussi très peu d'usages. J'ai l'impression qu'en tout cas, dans mon entourage, j'entends peu de personnes trans parler de leurs usages de plantes, et du coup, comment aussi répertorier ces usages et comment partager des vécus trans et voir aussi et constater à travers les témoignages qu'on recueille que les publics LGBT en général sont hyper déconnectés du monde médical, et que là aussi dans nos entretiens on voit qu'on interroge énormément de personnes militantes, donc à un certain milieu quoi, c'est un peu notre biais aussi, c'est que on rencontre des personnes par le bouche à oreille et que ces milieux là sont quand même très parfois en opposition à la médecine allopathique, et donc du coup très déconnectée de ce monde-là. Et du coup, comment aussi, enfin, à travers ces interviews, peut-être comment recréer aussi des liens et du partage autour de la santé communautaire, quoi.
Et comment il est reçu votre projet là avec les personnes que vous rencontrez cette semaine à Marseille? Enfin, voilà, comment elles s'emparent de votre proposition?
J'ai l'impression que, après peut-être que je projette, mais que c'est reçu de manière assez positive, que justement il y a souvent, ce qu'on a souvent c'est pendant ou après les témoignages, ah j'ai envie de savoir c'est quoi votre vécu, j'ai envie d'entendre c'est quoi le vécu des autres, ou justement il y a un manque de partage, c'est cool qu'il y en ait plus, enfin il y a un truc assez positif de manière générale de il y a plus d'informations qu'il y en avait avant, mais en fait il y en a toujours pas assez en règle générale, et après ça va vraiment dépendre des gens aussi, mais aussi des aspects où de manière très précise on parle aussi de là où il y a des trous de connaissances, enfin c'est-à-dire que du coup on pose des questions et puis en fait on nous pose la question pourquoi cette question est là déjà, où en fait les personnes réalisent ce qu'elles connaissent de leur vécu et ce qu'elles connaissent pas aussi. Et c'est assez intéressant, je pense, de... Ouais, c'est un moment d'introspection assez intéressant, je pense.
Ouais, et aussi qu'il n'y a pas beaucoup de matière... Enfin, les personnes plutôt transmasques ou les personnes qui prennent de la testostérone, il y a peu de documentation accessible. Et enfin, il y a quand même des sites un peu de référence, Wikitrans, etc. Enfin, ou plein d'assos qui font du travail, enfin, qui ont des brochures, etc. Mais c'est pas forcément un public qui est, qui va forcément regarder. Ou...
Puis c'est à quel point c'est pas accessible aussi. C'est-à-dire que là, on a passé une semaine du coup à faire des entretiens et à faire des recherches, à lire des études scientifiques avec un langage très scientifique. Majoritairement en anglais, et même là très limité, avec pas mal d'informations anatomiques assez poussées, et qu'en fait, je vois plein de gens aussi, enfin je vois justement, il y a un peu Il y a des personnes qui essayent de faire des recherches vite fait, il y a des personnes qui font des recherches plus d'un côté social, et je vois aussi des gens qui essayent de faire des recherches sur le côté les effets sur le corps et scientifiques et anatomiques, et qu'en fait c'est juste pas du tout accessible, quoi. Enfin, en fait, et donc enfin, il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent et sans trouver, au bout d'un moment enfin, on accepte qu'on va pas tout savoir et qu'on va pas tout comprendre, et même en passant des jours et des semaines de recherche, enfin, c'est un peu nos vécus personnels aussi, de bon, en fait on comprend jusqu'à un certain point, et en fait faut lâcher prise à tout comprendre avant de se lancer, quoi.
Oui, donc plutôt c'est hyper bien reçu parce que les gens voient qu'il y a un manque et du coup sont assez contents de répondre à ça, quoi.
Et le côté communauté, de c'est pas la même chose de parler de ce vécu avec d'autres personnes qui sont dans un vécu similaire que de répondre à ces questions, justement, sous, enfin, beaucoup de gens que je connais, c'est pas le cas de tout le monde, mais ont des suivis médicaux avec des médecins cis. Enfin, en fait, justement, d'être dans un environnement de recherche entre personnes concernées, et pas les personnes interrogées sont concernées et les personnes qui interrogent ont une séparation. Je pense que ça joue aussi à ça. C'est, y a pas, enfin, on nous a dit, des gens qu'on connaissait pas, qui nous ont dit, bah, on part sur une base de confiance parce qu'on a ce vécu en commun. Il y a un partage qui se fait différemment, je pense, avec ça.
Et est-ce que, du coup, dans vos entretiens, vous avez... Enfin, est-ce qu'il y a déjà un recours au soutien par les herbes et par les plantes dans ces parcours de transition ? Est-ce que c'est quelque chose dont ces personnes se sont déjà un petit peu emparées ?
Je dirais, ça dépend. Pour l'instant, on a fait peu d'entretiens, mais il y a, je dirais qu'il y a des personnes qui s'intéressent aux plantes, qui vont utiliser des plantes, mais pas forcément en lien avec leur transition. Ou alors, faut un peu chercher... ou alors un peu aller gratter l'information de « Ok, en fait, tu utilises des plantes. Ah non, pas du tout. Mais du coup, ah oui, après ton opération, t'as ma mec. Du coup, est-ce que tu utilisais quelque chose pour que ça cicatrise plus vite ?» Donc de trouver, voilà, des... Enfin, trouver dans un questionnaire de... Enfin, d'aller... Enfin, fouiller, quoi. d'aller fouiller le petit détail de « Ok, de l'usage de... » et donc oui, bah, j'utilisais l'écrise pour mes cicatrices. Enfin, voilà. Et du coup, il y a des usages un peu comme ça qui pop des fois, mais c'est quand même... très rare. Il y a quand même aussi beaucoup de croyances ou d'emplois. Moi, j'ai entendu plus des trucs du coup hors entretien où, par exemple, des personnes transfemmes qui vont plutôt, par exemple, se dire « Ok, j'ai entendu que dans le soja, il y avait des phytoestrogènes ou dans l'avoine, donc je vais manger beaucoup de soja, je vais manger... » Enfin, il y a plein d'idées comme ça reçues. Enfin, c'est pas des idées reçues, il y a des isoflavones, etc. Mais en fait, c'est plus l'idée reçue de que ça va agir dans ma transition et ça va m'aider à. Et du coup, il y a, enfin, je vois un peu ces tests-là quand même dans plein de vécu trans où les gens essayent des choses ou vont essayer de se renseigner sur des choses et voir. Il va y avoir ce discours aussi. Sur les plantes hormonales, un truc très culpabilisant de quand on est un peu écolo et quand on a à la base pas envie de se médicamenter avec des choses de l'allopathie et qu'il y a un jour où on se dit peut-être je vais prendre des hormones, il y a un petit peu comme ça un truc interne de discours contradictoire de ok je vais faire appel à Bayer ou à d'autres industries pharmaceutiques pour répondre à un besoin qui est le mien là maintenant. Et du coup, je crois qu'il y a aussi un truc du plein de monde de chercher comment je pourrais faire pour ne pas passer par Bayer et pour passer par du coup des plantes. Et bon, en fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est pas efficace ou en fait pas autant que des hormones dosées faites dans un laboratoire. Voilà, il y a quand même, j'ai l'impression, des gens qui essayent des choses de ce point de vue-là.
Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a un peu, justement, il y a un peu une déconnexion dans le sens qu'il y a des personnes qui utilisent des plantes sans vraiment penser qu'elles utilisent des plantes. Donc, dans tout ce qui est justement crème pour le visage, tout ce qui est huile de massage, ce genre de choses. Et que du coup, ça va pas être considéré comme en lien avec la transition parce que c'est pas la plante qui cause la transition en quelque sorte. Mais ça va être en fait la. En fait, d'après moi, il y a la personne utilise une plante sans le réaliser et c'est une personne trans. Et en fait, ça, du coup, c'est une plante qui est utilisée dans sa transition aussi. Et après, il y a plein de, justement, il y a aussi tout le mot de transition qui va résonner différemment pour différentes personnes ou ce que c'est. Mais justement, quand on entend bah, « j'ai pris particulièrement soin de ma peau parce que changement de texture de peau, acné, c'est justement ce qui est cicatrice, etc. » En fait, c'est des choses qui sont... En fait, qui font partie du vécu de transition de la personne, même si la personne ne pense pas utiliser de plantes pour sa transition. Et ensuite, d'un point de vue de chercher du soutien de cette manière-là plus directement, ce n'est pas vraiment une option que les gens connaissent tant que ça. Donc, on a parlé avec des personnes qui aussi sont... Beaucoup de personnes qui sont intéressées en des formes de médecine alternative, en règle générale, mais que justement, il y a rarement... des informations sur comment cette médecine alternative peut s'appliquer à la transition et que justement en fait il y a tellement ce rentrer dans l'inconnu que enfin j'ai aussi entendu des gens qui disaient j'ai tel aspect de ma transition qui me convient pas ou qui est difficile et j'en parle à mon endoc et la réaction c'est juste genre tu voulais transitionner c'est ça les effets quoi enfin et qu'en fait il y a des effets où t'es en fait, c'est pas parce que il y a quand même ce truc sous-jacent de tu décides de transitionner, si t'en souffres, c'est tu dois l'accepter quoi. Et c'est un peu pour moi, il y a un peu ça qui est lié au projet aussi de comment on travaille avec la médecine conventionnelle et comment on intègre la médecine communautaire pour avoir accès à la santé qui est et bien la vivre quoi en fait. Enfin, ce qui devrait être la base, mais ça l'est pas.
Et est-ce que vous pouvez nous partager des plantes qui justement peuvent venir en soutien dans le cadre d'une transition
C'est un peu le deuxième zine qu'on n'a pas... Où pour l'instant, on a beaucoup de graines d'idées, mais on n'a pas encore vraiment complètement poussé les choses. Après, par exemple, des usages que je connais, des gens qui ont utilisé, des herboristes qui ont utilisé, c'est par exemple... par exemple dans la cicatrisation des mamecs, l'huile de millepertuis qui est utilisée pour aider les nerfs à se régénérer plus vite pour retrouver de la sensation. Ça fait partie des choses que je dirais sont assez safe à utiliser. Après justement dans l'écriture des zines, on aura toute une section sur les utiliser, comment bien les utiliser et comment les utiliser avec en étant safe et en sachant tous les trucs. Du coup, par exemple, là, je dirais, si vous faites ça, ne vous exposez pas au soleil après, parce que c'est photosensibilisant. Voilà. C'est toujours le truc quand on parle de plantes.
Oui, et d'ailleurs, en fait, on parle de ça, comme ça. Mais en vrai, Suzine, on n'a pas le droit de l'écrire. Moi, du coup, j'ai fait une formation d'herboristerie en France, à l'école des plantes de Bayeul, et un petit peu d'ethnobotanique, mais je la pratique pas du tout de manière conventionnelle. Moi, du coup, enfin... J'ai aucun droit de parler d'usage de plantes. Et donc, du coup, ce fanzine sera forcément quelque chose qui va sortir que sur des réseaux militants. Et toi, je sais pas, du coup, dans le cadre...
Du coup, moi, je fais une formation d'herboristerie médicale en Angleterre. Dans un pays où c'est légal de faire de l'herboristerie médicale et d'avoir des patients et de faire des prescriptions et des diagnostics. Mais... où justement il y a tout cet aspect à utiliser des plantes dans le soin en ayant un grand attachement à le faire d'une manière en lien avec la médecine conventionnelle et de manière safe et de manière raisonnée mais que ces connaissances-là, même si je les ai dans un autre pays, ça légalement ça reste illégal en France quoi.
Tout à l'heure toi tu t'es présenté comme herbaliste et aussi comme herbaliste déviante. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi ce terme herbaliste plutôt qu'herboriste
Je dirais, herboriste à mes heures de... je fais de l'herboristerie parce que j'aime pratiquer l'herboristerie et cueillir et transformer. Et que je fais des ateliers dans des tiers-lieux et dans plein de lieux en rapport avec ça. Et j'ai une mini production pour moi, mes proches. Mais je dirais plutôt herbaliste dans le sens où... Et herbaliste déviante dans le sens où je pense pas avoir une pratique classique d'ethnobotanique ou d'herboristerie ou de... d'herbalisterie, qu'est-ce que ça se dit, ça, non ? Mais du coup, je m'intéresse beaucoup aux usages déviants des plantes et vraiment dans tout, je pense que ça peut regrouper. Et du coup, mon fer de lance, enfin, ce qui m'intéresse vraiment réellement, c'est comment le monde des humains ont projeté des sexualités sur le règne végétal et comment... Enfin, du coup, comment les humains parlent de ça, et du coup, comment le genre est perçu, ou les genres sont perçus chez les végétaux, et du coup, comment parler de, je mets des gros guillemets, théorie de genre dans le monde végétal. Qu'est-ce qu'on peut percevoir du sexe biologique de végétaux, et qu'est-ce qu'on perçoit de leur genre, quoi. Et du coup, je le fais vraiment d'un point de vue situé d'une personne... queer aussi, donc avec tout ce que ça implique comme biais, et du coup je dis herbaliste déviant parce que je peux beaucoup aussi, enfin je fais aussi de la poésie en lien avec le monde végétal, que j'appelle de la poésie écosexuelle. Du coup je peux aussi proposer des endroits un peu hybrides entre, du coup entre comment se réapproprier du langage botanique ou comment parler de... Enfin, comment se réapproprier le monde végétal de manière plus sensible et comment... Enfin, mes pratiques avec les plantes partent un peu dans tous les sens.
En fait, le regard que les sociétés, ou en tout cas la nôtre, portent sur les plantes, il est hyper genré. Il y a des plantes mâles et il y a des plantes femelles. Je sais pas. C'est une question, peut-être, ça.
Ouais. On est en hiver et j'ai pas fait de balade depuis longtemps, donc j'ai paumé des chiffres qui se perdent dans ma tête. Mais ouais, en fait, le monde végétal, il est beaucoup plus complexe que ça. Il y a énormément d'espèces hermaphrodites, ou alors, enfin, il y a très peu, en fait, d'espèces dioïques. Enfin, c'est vraiment, dans le monde, du coup, des angiospermes, il y a énormément de fleurs qui sont hermaphrodites, ou des espèces qui sont monoïques, c'est-à-dire qui ont deux types de sexes différents sur le même individu. Et souvent, il y a aussi des espèces qu'on réduit à des espèces dioïques, genre, je sais pas, par exemple, le figuier, alors qu'en fait, il y a des morphologies de sexes qui sont, dans ces mâles et femelles, qui sont vachement différentes et qui sont plus subtiles que ça. Enfin, et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont simplifiées, alors que... Enfin, et même, en fait... les hermaphrodites, c'est une grosse partie du monde végétal. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on simplifie énormément les choses parce qu'on est dans un monde binaire et que les humains, il y a les hommes, les femmes, et que déjà là, c'est dur d'intégrer en continuum et que du coup, dans le monde végétal, c'est encore plus dur.
Enfin, d'autant plus que la biologie, elle est tout le temps... j'ai l'impression elle vient en appui de ce qui serait naturel, d'être homme ou femme. Enfin, j'ai l'impression que... Enfin, en fait, ça communique tout le temps. J'avais écouté une sociologue, donc je n'ai absolument plus le nom, mais justement qui démontait un peu les postulats de la biologie... qui revendique être homme ou femme, il n'y a que ces deux options-là. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de complexifier le monde végétal et justement, ça casse toutes ces représentations qu'on a après sur les parcours de transition aussi. J'ai pas de questions en soi, mais moi, je trouve que ça ouvre vraiment de façon hyper importante nos imaginaires. Et ça permet d'exister vraiment différemment, quoi, et de pas s'enfermer dans l'un ou l'autre.
Ouais, j'ai envie de répondre à ça parce que c'est un truc sur lequel je me suis beaucoup questionnée. Parce que du coup, moi, je fais vraiment. Mon postulat de base, mon intuition, du coup, j'ai pas de démarche vraiment scientifique, ou alors j'ai une démarche scientifique à la Donna Haraway, c'est-à-dire j'ai une intuition, je tire les ficelles de cette intuition. Et en fait, moi, mon intuition, c'est un peu la même que la tienne, c'est-à-dire moi, ça m'ouvre des imaginaires de réfléchir à comment l'humain perçoit les sexualités végétales et moi, ce que j'en comprends et de voir qu'en fait, les morphologies, elles sont plus complexes que ce qu'on essaye de me dire et qu'en fait, bon, c'est un règne très différent de nous. Il y a quand même ce truc et cette réflexion qui est où moi, je me suis déjà pris un peu en balade botanique. Il y a une personne qui me disait, mais en fait, tu fais de l'anthropomorphisme et c'est hyper dangereux de comparer le règne végétal au règne animal et donc à notre règne. Et en fait, oui, de manière biologique, on n'a pas du tout le même fonctionnement, mais en termes de représentation et de ce qu'on projette, et du coup, là, pas en termes biologiques, mais en termes bien d'identité, et c'est ce que tu l'as dit, tu vas se projeter, en fait. Et quand, moi, je remarque, enfin, il y a énormément de plantes qui font des transitions, du coup, enfin, en tout cas, des organes qui ont un pistil et des étamines, mais qui expriment ces parties à différents moments. C'est la dichogamie, quoi, qui dans le temps, les exprime à différents moments, qui évitent l'autofécondation à certains moments ou qui, justement, vont favoriser l'autofécondation à d'autres moments pour que l'autofécondation se fasse, pour que la plante puisse se reproduire, même si elle n'a pas de compagne, de copain dans le coin pour se reproduire. Et donc, du coup, je trouve ça fascinant, moi, en tant que... Enfin, je trouve ça, du coup, fascinant ce que je me projette dans cet être est capable de changer comme ça de sexe. Donc, enfin, ou en tout cas, aller de sexe, mais l'exprime à des moments différents. Et je trouve ça passionnant. Et du coup, oui, voilà, il y a tout un danger de faire de l'anthropomorphisme. Mais en même temps, bah, je trouve ça passionnant d'imaginer des identités, de me projeter dans des identités et de faire un peu de la botanique des viandes comme ça. Et ouais, de trouver beaucoup de poésie là-dedans et de plaisir, quoi.
Je pense qu'il y a ce côté sur l'anthropomorphisme et la dangerosité de ça. En fait, l'anthropomorphisme, il se fait déjà dans un discours assez médiatisé d'une manière dangereuse où justement tout l'argument de ce qui est naturel ou pas, justement, c'est bien de se rappeler que... ça fait du bien de se rappeler que... Bah non, c'est... En fait, sortir de la binarité, c'est... il y a beaucoup d'arguments qui essayent de lier au monde animal, au monde végétal, de plein de manières, qui essayent de justifier la binarité comme une norme, et qu'en fait, c'est pas une norme chez l'humain, et c'est pas une norme nulle part, dans n'importe quel monde vivant, ou non vivant, d'ailleurs. Donc c'est... Enfin, je trouve que c'est une manière de casser, justement, un discours... aussi anthropomorphique, comme on voit sur l'histoire de la botanique, comment les humains ont toujours projeté dessus ce qu'elles voulaient imposer dans la société humaine aussi, quoi. Et du coup, c'est intéressant de déconstruire ça dans tous les points. Et ce que tu disais aussi sur la représentation, en fait, en tant que personne queer aussi, on a une représentation limitée et c'est incroyablement créatif et créateur de s'inspirer du monde autour de nous sur comment on peut être autre quand on a des représentations limitées, quoi.
J'ai pas tellement de questions, mais je trouve que même parler de sexualité des plantes, c'est déjà aussi vraiment parler d'anthropomorphisme, parce que j'ai pas la définition en tête de qu'est-ce que c'est que la sexualité, comment elle est définie dans le Larousse, mais... Entre ce terme-là et le terme des organes des plantes, on a quand même calqué beaucoup de nos représentations binaires sur ce monde-là, quoi.
Oui, c'est clair. Il y a tout ce truc de, justement, à travers les âges, d'avoir projeté des sexualités parce qu'on associait les plantes aussi à des... Dans l'Antiquité, par exemple, les plantes... n'avaient pas de sexualité, ne se reproduisaient pas. Enfin, elles faisaient vraiment... c'était vraiment des êtres qui étaient arrivés sur Terre avant les animaux et avant la séparation binaire. Et donc, ces êtres se reproduisaient un peu par la magie des dieux, quoi. Éole balançait une graine, et Zéphyr, le dieu du vent, faisait répandre cette... Et bon, bref, la plante poussait. Et du coup, on le voit... On le voit dans l'Antiquité, on pouvait absolument pas... Enfin, les philosophes présocratiques ont dit, OK, en fait, les plantes sont des êtres qui ne se reproduisent pas. Et du coup, cette pensée-là était hyper dure à déconstruire. Et à travers les âges, c'était hyper dur de parler de reproduction végétale. Et donc, du coup, ça a amené beaucoup de tabous aussi autour de ça. On pouvait pas parler de ça parce qu'en fait, c'était pas permis d'en parler. Enfin, ça n'existait pas, quoi. Enfin, vraiment, ce truc de... OK, les philosophes ont créé un tabou autour de cette question qui... Enfin, et donc, on voit que c'est un tabou par des écrits... qui ne pouvaient pas être remis en question, qui venaient même pas du coup de religion, mais de philosophes, quoi. Et du coup, plusieurs personnes qui ont essayé un peu d'écrire autour de ces questions, et notamment, par exemple, Ovide, dans les Métamorphoses d'Ovide, donc parle des végétaux et va parle des nymphes, et il y a plein de récits autour du fait que, par exemple, je vous raconte une anecdote comme ça de nymphes qui, par exemple, c'est Daphné avec Apollon qui va à un moment essayer de donc il y a Apollon qui la poursuit dans la forêt et donc qui va essayer de violer Daphné, il faut dire les mots comme ils sont, et en fait Daphné qui va essayer de s'enfuir et se changer en laurier, et donc c'est de par cette légende là que en fait le laurier après est la plante d'Apollon. Et il y a plein d'histoires comme ça de nymphes dans la forêt qui ont essayé de fuir des personnes et qui se sont transformées en végétaux pour échapper à des viols ou à des agressions sexuelles. Et du coup, c'est là encore où on voit l'espèce de symbole. Le monde végétal, c'est la virginité, c'est un truc qui est un peu intouchable. Où, voilà, il y a une forte symbolique autour de ça. Et plutôt, ça, c'est des écrits, du coup... Enfin, moi, je me réfère pas mal à Fleur d'Auger, qui a fait pas mal de recherches autour des animaux et des plantes. Et du coup, là, ce dont je vous parle, c'est issu d'un bouquin qui s'appelle « Les plantes ont-elles un sexe ?» Et donc, du coup, c'est vraiment ce questionnement-là de, en fait, comment on a projeté de la sexualité ou pas, justement, et comment elle est taboue ou pas. Et à travers les âges, après, c'est très, très fort resté, en fait, jusque presque à la Renaissance, que les plantes, en fait, n'avaient pas... Enfin, en tout cas, le discours majoritaire, c'était « Ok, les plantes ne se reproduisent pas, ou alors ont des symboliques très fortes, portent des symboliques très fortes, mais c'est... Enfin, on trouve peu de choses sur... En fait, finalement, c'est avec l'invention du microscope et avec l'invention on peut regarder les choses de manière tout petite que les personnes ont compris que les plantes pouvaient se reproduire. Mais il y a aussi que dans l'Antiquité, on avait quand même compris que certains... Enfin, par exemple, je pense aux palmiers dattiers ou à des espèces qui... Enfin, il y avait de l'agriculture, en fait. Donc on avait quand même compris des mécanismes de reproduction, mais ils n'étaient pas exprimés. Enfin, c'était impossible de les exprimer, de les expliquer, alors qu'on trouve... je sais pas, dans des écrits de Théophraste, des trucs, enfin des récits autour du palmier dattier où il parle, oui c'est ça, en fait, donc ils avaient pas trop admis qu'il y avait des femelles et des mâles, mais à part pour le palmier dattier, c'était un peu l'exception. Donc les palmiers dattiers, ils avaient bien compris que c'était une espèce dioïque, et Théophraste en parle comme le palmier femelle se penche. Esselé, sans mâle, enfin un truc comme ça, et c'était un peu l'exception du monde végétal, on sait pas pourquoi, enfin il y avait un peu des incartades comme ça, de trucs hyper bizarres et pas du tout logiques, et le genre aussi était vu comme, en fait ils projetaient quand même des genres sur les végétaux, malgré le fait qu'il y avait un truc un petit peu de, il faut pas toucher, c'est des êtres de lumière, mais par exemple il y avait un peu une projection comme l'olivier femelle, c'est l'olivier plutôt de maison, qui a des gros fruits, qui est gorgé en eau, et l'olivier mâle, c'est plutôt l'olivier sauvage et robuste. Enfin, ils projetaient quand même des genres sur les végétaux, qui étaient de deux espèces différentes, en fait. Enfin, maintenant, on le sait, quoi. Donc, ils projetaient quand même comme ça des images un peu étranges sur des végétaux. Enfin, il y avait plein de récits comme ça, entrecroisés, complètement absurdes, qui dénotent bien de... Juste, en fait, la pensée de l'époque, quoi. Et du coup, le palmier dattier, c'est vraiment la pensée de... OK, il y a cette exception qui est forcément une relation projetée complètement hétéronormée avec ce palmier dattier femelle esselé. Ça dénote quand même de choses quand même vachement étranges, quoi.
Je trouve que ce que tu racontes sur le palmier dattier et en fait du coup sur l'agriculture, on le retrouve aussi dans le vocabulaire de l'agriculture, sur on va ensemencer la terre, qui sont finalement des termes hyper violents, qui peuvent être quand même assez violents d'un rapport à la terre et en même temps à cette reproduction-là qu'on pourrait simplement appeler peut-être multiplication. Mais ce n'est pas ces termes-là qu'on utilise pour parler de l'agriculture qui est du coup dominée par l'humain. C'est toujours pas une question.
Je trouve ça intéressant parce que ça me fait un peu penser au fait d'avoir un peu réalisé ce côté de dans les années 1700, tout ce côté-là de c'est le moment où on a commencé à répertorier les plantes, on a commencé à s'intéresser à leur donner des noms latins, mais du coup, tout, on a commencé à faire ça aussi avec des herbiers, on a commencé aussi à s'intéresser aux insectes, en fait, à réaliser que les insectes existent et qu'en fait, on a réalisé là aussi la métamorphose des insectes. Enfin, plein de choses comme ça qui avant juste existaient, que d'un coup, ça a été classifié, ça a été nommé, et il y a des mots qui ont été utilisés, et du coup, justement, ce terme d'ensemencé, je me demande quand est-ce que c'est devenu le terme qui a été normalisé. Parce que, par exemple, on a beaucoup ça en botanie, des noms latins. C'est très nourri par l'Europe à cette époque-ci, qui est une Europe coloniale, qui est une Europe qui, justement, s'impose l'homme patriarcal blanc qui règne sur les autres humains, les autres animaux, les autres plantes, et qui a tout un rapport, tout le langage qu'on utilise maintenant, c'est un langage qui est nourri à une époque où qui est très dans un rapport de dominance, quoi. Et qui, enfin, il y a des noms latins où c'est pas ok, quoi. Enfin, enfin là j'ai pas d'exemple, mais et je trouve ça intéressant justement, même les termes qu'on considère comme normaux qui sortent du latin, quand est-ce que c'est des mots qui ont été utilisés de quelle manière et pourquoi?
Je fais une petite parenthèse, mais il n'y a pas longtemps, j'ai découvert l'existence d'un champignon qui s'appelle le phallus impudicus. Qui est peut-être... et qui a une forme, effectivement, de phallus en érection. Mais qui, encore une fois, montre bien la projection qu'il peut y avoir des botanistes de l'époque et des botanistes mâles, parce que... Si je me trompe pas, je sais pas trop à quelle époque on projette du coup une sexualité sur les plantes et une sexualité parfois presque obscène, en tout cas trop olé-olé, et où on écarte les femmes botanistes aussi de la discipline et où elles se retrouvent reléguées à ce champ-là du dessin botanique. Et en fait, il y a... Enfin, les dessins botaniques à l'époque sont ultra précieux et racontent plein de choses, mais parce que tout à coup, les fleurs sont absolument impudiques, ça devient plus ok pour les femmes de s'intéresser à ces plantes-là, et donc elles deviennent davantage reléguées du côté du dessin plutôt que de l'étude. Je suis pas hyper sûre de cette histoire ni de quand elle date, mais il me semble qu'il y a un peu de... Enfin, que je me trompe pas complètement sur le fait que ça a éjecté aussi les femmes de la discipline de se pencher sur ce virage-là où, comme tu dis, le végétal n'est pas sexué pendant longtemps, et puis à un moment, on découvre qu'il l'est. Et donc, ça a aussi une implication sur la société humaine, finalement.
Moi, ça me fait penser à un truc qui se retrouve... Enfin, sur comment certains groupes sont expulsés, où justement, je me souviens avoir aussi appris l'histoire des herbiers qui, en fait, ont commencé beaucoup avec... la colonisation et le fait de pouvoir sécher des plantes pour les ramener et montrer leur rareté et du coup montrer une forme de pouvoir. Et ce côté de, en fait, il y a plein d'herbiers qui ont été récoltés par des personnes complètement anonymes, et il y a toute une histoire de la botanique qui a été complètement anonymisée et qui a été par contre utilisée pour des personnes pour montrer leur pouvoir. Et du coup, enfin, pour montrer leur pouvoir et leur argent et le fait que c'était des personnes qui pouvaient financer des voyages et avaient lien avec la colonisation, mais qu'il y a, enfin, justement, toutes les personnes anonymisées dans l'histoire des plantes et de la botanique et qui ont été reléguées à différents rangs.
J'ai pas d'infos sur ça, mais je pense que j'ai une intuition comme ça, c'est que. Enfin, il y a aussi, j'ai l'impression qu'on traite, qu'il y a beaucoup d'analogies entre les femmes et les plantes. Enfin, et que ça, c'est un truc que. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tout ce qu'on peut attribuer comme adjectif ou comme vocabulaire aux plantes, c'est-à-dire vénéneuse, fragile, belle, belle à regarder, etc., enfin, qu'on l'attribue aussi beaucoup aux femmes. Et j'ai l'impression que. Je sais pas, du coup, j'ai un peu switché de sujet, mais ça me vient comme ça parce qu'il y a un truc de. Enfin, de comment on relègue les femmes à des objets, comment on relègue aussi les fleurs à des objets, à plus des objets d'usage, mais à des objets juste beaux à regarder et qui sentent bon. et c'est ce qu'on fait maintenant, enfin, je veux dire. Et Et c'est oui, donc du coup, en fait, c'est effectivement pas étonnant. Oui, en fait, on va faire du dessin botanique parce qu'on va faire un truc joli finalement, on va faire un truc qui. Enfin, un peu léger, un peu joli, mais en fait, dans les représentations de la religion catholique, il y a des fleurs hyper symboliques, dans plein de trucs, il y a des. Enfin, dans les ornements de décoration de maison, il y a des fleurs, et que ouais, ça fait partie comme. Ouais, enfin, je sais pas, j'ai vraiment le sentiment qu'on voit les fleurs comme des femmes, ou qu'on voit les femmes comme des fleurs, quoi. C'est...
Juste pour rebondir là-dessus, tout à l'heure, j'ai ouvert un livre au hasard et où il faisait aussi cette analogie entre femmes et plantes qui deviennent, à un moment de l'histoire, domestiques et décoratives.
C'était dans quel bouquin ?
Ben, c'était une citation dans le livre de Mona Chollet, mais c'est pas d'elle. C'était une citation d'un autre...
Mais en fait, moi, ça me fait penser à une femme, bon, je sais plus de quelle discipline elle est, mais qui fait l'analogie, justement, entre le système politique et toute la domestication de la nature, en fait, et tous les rapports de domination qu'il y a sur les femmes, sur les minorités raciales. Enfin, en fait, ça parle d'intersectionnalité, quoi. Et moi, cette conversation, elle me fait penser à ça. Mais récemment, j'ai lu un autre auteur qui s'appelle Charles Stepanov, qui est un anthropologue, et qui parle de nos liens d'attachement au territoire et à la nature. Et je suis seulement à l'introduction, mais en tout cas, lui aussi, il complexifie un tout petit peu ça en disant que y a peut-être un lien, enfin, il y a un lien dans certaines sociétés entre le capitalisme, la domestication, mais qu'en fait, il y a aussi, enfin, en fait, quand on domestique la nature, que ce soit des animaux, des plantes, ou des autres humains. Il y a plein de systèmes politiques qui peuvent en découler, et que ça aussi, c'est ultra complexe, et que c'est pas parce qu'on domestique qu'on devient forcément... En tout cas, la domestication, c'est aussi... en fait, il relie ça en termes de règne interespèce et de liens, et comment, en fait, à des moments, il y a eu rencontre aussi entre des humains et d'autres animaux qui étaient dans une forme de... Bon, je sais pas, après, j'ai pas assez lu pour très bien en parler, mais à quel point aussi, c'est une relation, et que du coup, il y a deux pôles, quoi. Et que quitter un tout petit peu, en fait, le point de vue humain et décentrer le rapport et la construction entre...
Ce que tu dis, ça me fait penser à un livre que j'avais lu de Silvia Federici, où justement, ça parlait de ça et de justement cette époque dans les années 1700 et du passage à la domestication et début capitalisme, etc. Et ce côté de... où à un moment, elle parle de dans un tribunal, il y avait un chien qui était amené, et c'était dans les archives, pour témoigner dans une histoire de meurtre. Et qu'en fait, le chien a témoigné, ils ont amené la personne qui était accusée, et la réaction du chien a été considérée comme un témoignage, comme un autre, quoi. Et ce côté de... de justement ce changement de lien avec les animaux, et ce changement de lien avec les plantes. Et de justement, ça, il me semble qu'on en parlait un peu avant, tout à l'heure, mais de aussi ce rapport à la sorcière, et la sorcière qui refuse, qui parle avec des animaux, qui utilise des plantes, et qui refuse un peu cet aspect-là de domestication et de binarité sur certains aspects.
Ouais, mais c'est pour ça que c'est hyper militant en soi de se réapproprier des usages et justement de modifier... par exemple, pour moi, c'est hyper militant et hyper fort de dire « Ah ouais, en fait, cette fleur qui est hyper belle, en fait, je peux la manger. » Enfin, genre... et réapprivoiser son cerveau, de se dire « Ok, je peux manger un truc qui est hyper beau et qui sent bon, et en fait, ça a un usage, et je peux... »
Interagir avec, quoi. Enfin, justement, ce côté de se séparer du monde autour et de se dire « En fait, là, je peux être en interaction complète, je peux la mâcher, la digérer, la... » Enfin, pour moi, il y a quelque chose de très sensoriel aussi là-dedans, de se reconnecter à ses sens et utiliser le monde autour de soi pour.
J'ai retrouvé la phrase, C'était aussi Sylvia Federici. Dans Caliban et la sorcière. Et puis après, ça part dans plein d'autres...
Tu veux nous la lire ?
Bah non, parce qu'elle est découpée, enfin, il y a plein de petites citations, mais sur la page d'à côté, il y a aussi écrit, j'attrape vraiment juste des phrases comme ça, du coup j'ai pas du tout le contexte, mais « La machine à fabriquer l'homme nouveau était aussi une machine à tuer les femmes anciennes ». Enfin, je pense qu'il y a aussi tout ce truc-là qui se joue dans les années 1700 et même avant.
Il me semble que dans ce livre-là, c'était cet aspect de justement la vieille femme qui parle aux animaux, qui utilise des plantes, qui souvent a un rôle dans la communauté, dans nourrir les communs, qui du coup, en fait, dans un moment où on commence à privatiser toutes les terres, en fait on veut... La diaboliser et on veut la tuer pour pouvoir vendre chez elle et rendre ça un terrain privé alors que c'est un symbole de lien commun et de... Ouais, il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça. Et donc la chasse à la sorcière.
Je crois qu'aujourd'hui... je sais pas trop aussi non plus comment formuler cette phrase, mais de toute façon, on associe... On dissocie, pardon, la nature au sens très large à une conception capitaliste du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et je crois qu'il y a du coup, il y a une grande faille entre ces deux mondes-là qu'il faut investir, quoi.
Mais c'est là où les théories queer, elles sont hyper intéressantes aussi, où, je sais pas, Judith Butler, et enfin, où on va parler de nature-culture et on va essayer de trouver d'autres vocabulaires et de parler de vivant, et du coup ça c'est aussi militant et j'imagine qu'il y a énormément de moi quand je fais des balades herbalistes il y a vraiment ce truc là qui arrive de ok comment on va parler de ça et comment c'est quoi notre rapport à ça et au monde qui nous entoure et du coup d'essayer le plus possible de me dire que par exemple moi je fais partie de ce monde là que je suis en interaction avec enfin, il y a plein, je sais pas, d'études, sur les les écologies queer déviantes, de quel est notre rapport à l'environnement qui est autour de nous. Enfin, je pense à cette étude de Matthew Brandy sur un cimetière à Londres qui est aussi un lieu de rencontre gay. Et ouais, du coup, il parle aussi de comment en fait l'humain peut être un vecteur. De reproduction en fait de plantes dans cet environnement et comment aussi cet environnement qui est dit sauvage on va dire qui est laissé en tout cas en friche dans un milieu urbain peut être un lieu de rencontre hors caméra hors champ visuel hors champ étatique et du coup comment aussi comment aussi parler de ces endroits-là et comment parler du rapport au monde végétal aussi, non pas que dans ces sexualités projetées, mais aussi dans ces autres types d'interactions et comment nous, on est vecteurs au milieu et se placer au milieu et plus à côté de ce monde-là, quoi. Comment s'intégrer au gangbang de pollen et plus... je vois les choses un peu comme ça. Comment moi je m'intègre, comment je suis porteur de pollen et comment je vais faire que le mimosa qui est ici peut-être va se reproduire grâce à moi. Enfin, je sais pas. Parce qu'il y a un grain de pollen qui va être là et qui va être transporté par.
Voilà. Et pour les personnes intéressées, du coup, ce cimetière, c'est le Tower Hamlet Cemetery Park, du coup, dans l'est de Londres, qui du coup est effectivement un lieu de cruising depuis plusieurs centaines d'années, quoi.
Ah ouais.
Ouais, c'est vraiment. Et ça continue.
moi, j'avais envie juste de revenir à un truc beaucoup plus terre-à-terre qui est... tout à l'heure, vous nous avez dit que vous habitez dans la Creuse en ce moment. Et du coup, comment ça se passe un peu votre implantation sur le territoire et vos pratiques d'herbaliste, etc.
On est trop mignons. Alors, pardon. Moi, je sais pas. En fait, moi, j'ai une activité plus professionnelle qui est de faire des ateliers dans des tiers-lieux et ça va être plus faire des balades herbalistes assez classiques, quoi, où je vais pas trop aborder des questions queer ou alors les inséminer, mais par petites touches, mais pas forcément voilà, en parler hyper frontalement. Et donc je peux aussi faire des ateliers sur, je sais pas, faire un baume, un atelier herbier avec des enfants, enfin voilà, tout type d'ateliers autour des plantes, quoi. Je fais aussi des ateliers de récolte de témoignages autour des plantes et autour de certaines thématiques. Là, on a fait ça, un cycle d'ateliers avec Radio Vassivière. Donc, voilà. Et du coup, plus la partie qui m'intéresse sur plutôt du coup les sexualités végétales ou en tout cas la projection des sexualités végétales, etc. C'est plus quelque chose que je fais du coup dans des festivals féministes. Je sais pas, j'ai fait ça pour le planning familial et milieu militant. Et quand même, du coup, de personnes queer. Donc, du coup, je dirais que l'implantation sur le territoire par rapport à cette activité-là est assez. Enfin, il y a un peu quand même plusieurs manières de partager des informations et des.
Ouais. Et moi, je vais répondre d'une manière un peu plus vague. Mais, du coup, je suis en Creuse et puis je continue à faire des allers-retours avec des villes dans d'autres lieux et en Angleterre. Et en fait, je pense qu'il y a une manière assez juste qui sort de la binarité dans tous les aspects de ma vie. Et ça inclut où je vis et ça inclut dans quel type d'espace je vis. Et le côté d'être en interaction avec un milieu rural, c'est incroyablement nourrissant de plein de manières. Et ça nourrit plein d'aspects de mes pratiques et de ma vie, et le fait que ce soit pas le seul, ça nourrit d'autres manières, et je pense qu'il y a un peu, et j'ai l'impression que ça se retrouve avec beaucoup de personnes sur le territoire et beaucoup de personnes queer sur le territoire. Voilà, comment sortir des binarités de plein de manières et comment ça nous nourrit de plein de manières.
Mais moi je voulais juste vous demander si vous pouvez, tout à l'heure on a quand même parlé de plein de livres aussi très déviants sur les usages des plantes, est-ce que vous pouvez juste peut-être nous les citer? Parce que on a, y a le zine que vous allez faire qui va sortir, mais il y en a d'autres qui existent déjà.
Du coup, il y a plein de manières dont les plantes sont déviantes qu'on a mentionnées, qu'on n'a pas beaucoup parlé. Ce soir, on n'a pas beaucoup parlé des poisons, par exemple, mais on en a parlé avant, hors micro.
Il y a la mauvaise santé par les plantes, qui est de Julie Subirana, donc un petit livre qui parle d'usage déviant, donc plutôt de plantes qui ont une certaine toxicité, quoi. Et du coup, il y a plein d'usages assez drôles, et enfin pas que drôles en vrai, mais il y a des usages, par exemple dans le vaudouisme, il y a des usages de personnes qui voulaient dérober d'autres, enfin des empoisonnements pour dérober des choses à d'autres personnes, je sais pas, avec de la datura. Il y a aussi, je sais pas, à un moment, elle parle aussi de la clématite, qui est appelée aussi l'herbe aux gueux, pour une raison assez particulière, qui est que, a priori, les gueux, à une certaine époque moyenâgeuse, se frottaient la peau avec la clématite et utilisaient sa propriété toxique pour avoir des sortes de rougeurs et pour paraître, du coup, malade. Ou... voilà, il y a plein d'usages comme ça qui sont répertoriés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des légendes autour de ces usages? Probablement, quoi. Mais en tout cas, c'est assez drôle la manière. Enfin, ce livre est une pépite, quoi, en termes d'usage un peu drôle et déviant et militant aussi.
Oui, c'est ça. En fait, au-delà de savoir si ces usages sont véridiques ou non, l'idée, c'est juste de travailler un peu nos imaginaires autour des plantes, quoi.
Et le fait aussi que même si ces usages n'étaient pas avérés, il y a aussi ce truc de se projeter dans « Ok, en fait, on pourrait utiliser des plantes toxiques pour... » Et rien que ça, c'est déjà militant de propager cette idée, parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne s'imagine pas utiliser des plantes toxiques à des fins illégales, enfin c'est un truc qui se fait plus, quoi.
Ouais. Oui, puis on est tellement bercé de ce discours de la santé naturelle, enfin versus la médecine allopathique avec des médicaments de synthèse, etc. Enfin en fait il y a aussi tous ces règnes de parole là qui s'affrontent et du coup en fait enfin en t'écoutant, je me dis, mais c'est vrai que je suis vraiment martelée tout le temps que le fait que ça soit naturel, entre guillemets, une molécule que je vais manger, elle est forcément bénéfique pour moi, mais en fait, non, quoi. Enfin,
c'est là où ça retombe dans tout un discours très binaire et aussi un discours qui n'est pas cohérent, parce qu'on entend soit les plantes, soit c'est naturel, du coup c'est que bien et il n'y a pas de toxicité dans ce qui est naturel. Soit les plantes, il ne faut pas parce que c'est dangereux. Soit les plantes, de toute façon, ça ne sert à rien. Et il y a tous ces trucs, du coup, d'une manière où en fait, il y a plein de personnes qui retombent dans cette binarité de c'est pas naturel, c'est pas bien, c'est naturel, c'est bien, alors qu'en fait, il y a plein de trucs naturels très dangereux. Et s'il vous plaît, faites attention. et qu'en fait, il y a plein de choses aussi qui nous font du bien à une certaine dose, qui nous font pas du bien à une autre dose. Et que justement, c'est... en fait, il y a mille et un possibles, mais qu'on n'arrête pas de justement être nourri à une forme de binarité de ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait pas faire, et ça, c'est simple. Et qu'en fait, c'est aussi ça, c'est sortir de la binarité, c'est sortir de... c'est simple, on a une réponse toute faite, et en fait, il y a des responsabilités aussi, et tout cet aspect-là contradictoire qu'on apprend et qu'on déconstruit.
Donut est spécial, un peu mystique. Je sais pas trop d'où tu viens, peut-être d'Amérique. Donut est spécial, des pouvoirs magiques. Tu plais aux garçons, tu fais de l'effet aux filles. Oh, 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 au parfum exotique. Oh, oh, Donna, quand tu tournes sur la piste. Bella Donna, ne m'en veux pas, non. Je préfère en rester là. J'ai plus les idées claires quand je te vois. Bella Donna, ne me teste pas. J'ai eu ma dose, je crois. J'ai d'autres choses à faire que de penser à toi. Donna, tu t'emballes. Je t'ai connu par des potes, mais t'es pas fréquentable. Je préfère que tu t'en ailles. Tout rouler dans ma vie, maintenant je perds les pédales. À quoi tu m'entraînes? Ça fait pas bon mélange, ça fait pas bon cocktail. J'ai la tête à l'ouest. Même dans le flou, je vois bien que t'es pas net. Oh, 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 oh. J'ai plus le goût des risques. Oh, oh Donna, je te flairais, t'es toxique. Bella Donna, ne m'en veux pas, non. Je préfère en rester là. J'ai plus les idées claires quand je te vois. Bella Donna, ne me teste pas. J'ai eu ma dose, je crois. J'ai d'autres choses à faire que de penser à toi. D'autres choses à faire que de penser à toi, Bella Donna. Ne m'en veux pas, non. Je préfère rester là. J'ai plus les idées claires quand je te vois, Bella Donna. Ne me teste pas. J'ai eu ma dose, je crois. J'ai d'autres choses à faire que de penser à toi.
Merci à Ellie et Oran pour cette conversation et à Boris pour la technique de ce plateau radio improvisé dans le salon. La musique, c'était Bella Donna de Suzanne, la suggestion musicale de nos invités du jour.
Et comme Ellie a aussi une pratique poétique de l'ethnobotanique, on conclut sur la lecture de deux de ses poèmes avec encore un grand merci pour le partage. On se retrouve le 22 avril pour un nouvel épisode ou avant ça sur radiogalère.org pour réécouter cette émission ou retrouver les références.
Du coup, ça s'appelle Tremble. Des liasses tombent des arbres argentés. Je danse lentement, autour de l'étang profond et noir, à sa surface, les feuilles des trembles tremblent, s'agitent dans une sonate Nakamura. Et moi, avec mon pantalon noir, torse nu, je suis bien, riche de forêt. sans titre. Je te taxine au volant de mon camion démon. Je te succube en dés de viande pour m'humuser un peu. Pour que, le lendemain, tu naisses Taxol, nouveau bâtard 2.0. Je te saffique sous le sophore statique. Mon corps sonne or, se rit des sorts capitalo-tractés. T'emmène au creux de l'écorce dans un va-et-vient sonore. Je te télépigging en Bluetooth pour faire rentrer tout l'amour cassé dedans. Quand tu es plein, sophore s'essouffle, t'enveloppe cannibale de ses branches pleureuses, et mon pénis pousse.
Dit cotylédon. On entend le mot de et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois, parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.